parle innovation,
investigation, más desarrollo, más innovación.
Vous écoutez les échos de l'innovation.
À vous qui nous écoutez sur la radio 94.9 FM, bien le bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode des Échos de l'innovation. Au programme, trottinette, calèche, voiture autonome, nous nous attaquerons à la question des transports terrestres et chercherons à comprendre comment leur évolution transforme notre rapport au temps, à la distance et à la ville. Pour cette exploration, je suis bien accompagnée de Quentin, étudiant génie informatique à l'UTC, et Cyril, étudiant génie informatique également à l'UTC, et surtout président de l'association Utonome que je lui laisse présenter.
Bonjour Lucie, bonjour Quentin, merci pour l'invitation. Donc pour un peu de contexte, je suis passionné d'informatique mais aussi d'automobile, donc le choix des véhicules autonomes était un peu une évidence pour moi. Avant de rejoindre l'UTC, j'ai fait une prépa intégrée à l'UTBM, où j'ai pu découvrir le Challenge UTAC, une compétition européenne dans la thématique du véhicule autonome. Et c'était aussi mon premier pas dans le domaine du véhicule autonome plus généralement. En arrivant à l'UTC, j'ai vu la dynamique et la richesse de la vie associative, mais également la dynamique du laboratoire Eudiasic, qui est une référence mondiale dans le domaine du véhicule autonome. Et il y a pas mal de cours dans la filière INES, donc informatique embarquée et système autonome, qui attaquent également les sujets de la robotique et du véhicule autonome. Donc l'idée, c'était de créer un club pour mettre tous ces acteurs en relation et créer des nouvelles choses. Donc j'ai contacté Louni Sadouane, enseignant-chercheur à l'UTC et responsable de la filière INES, qui a environ une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine des véhicules autonomes. Et ensemble, nous avons créé le projet SecUTOD, Smart and Efficient City Using Autonomy on Demand, qui est un projet de modernisation des villes en incorporant un système de véhicules autonomes agissant sous la forme d'autopartage avec des robots taxis qui pratiquent le covoiturage. Donc c'est une vision d'une ville du futur où les transports publics sont remplacés par ce nouveau mode de transport qu'on appelle les U-taxis. Et nous créons à la fois les algorithmes qui contrôlent le véhicule autonome, mais également les algorithmes d'optimisation du service Autonomy on Demand, donc le fait d'affecter les passagers à un véhicule de sorte à ce que la flotte dans son ensemble et le coût énergétique le plus faible possible. Et donc on a présenté ça dans le cadre des deux dernières éditions du Challenge UTAC, avec pour l'édition 2024 qui s'est conclue par le prix de la meilleure école ainsi que le deuxième prix à l'épreuve libre, et l'édition 2025 qui s'est conclue avec le premier prix à l'épreuve libre, avec notamment des démonstrations en réalité mixte, avec un véhicule réel qui tourne, un véhicule autonome réel qui a tourné dans une piste d'essai en mode autonome, et qui était connecté à une ville simulée, qui est du coup son jumeau numérique, avec un trafic dense qui était en interaction avec ce véhicule réel.
Adrien, un très beau palmarès, un très beau projet. Merci beaucoup pour toutes ces explications et j'ai hâte d'en savoir plus. Avant d'explorer les enjeux de ces recherches et véhicules du futur, je vous propose un voyage à travers le temps, retour en arrière aux côtés de Victor Hugo qui découvrait alors le train lancé à la vive allure de 50 km/h. En ce début de chronique, je vous propose un petit voyage dans le temps. En effet, pendant des siècles, nos déplacements étaient lents, dictés par les moyens du bord, la marche, le cheval, la charrette. Le monde se mesurait alors à l'effort. Aller loin, c'était rare, laborieux et souvent marquant. Le temps du déplacement faisait partie de l'expérience. On prenait le temps au sens littéral. La distance était palpable. Loin, c'était vraiment loin. Puis vient le grand bouleversement au XIXe siècle, l'avènement du chemin de fer. Le train, symbole d'une modernité naissante, redessine notre rapport au territoire. Les distances se contractent, les villes se relient, l'économie s'emballe. Ce n'est pas seulement une révolution technique, c'est une révolution sociale. Victor Hugo, dans une lettre du 22 août 1837, s'émerveille même lors d'un trajet en train. La rapidité est inouïe. Les fleurs du bord du chemin ne sont plus des fleurs, ce sont des taches, ou plutôt des raies rouges ou blanches. En 1800, il fallait plus de 10 jours pour aller de Paris à Bordeaux en diligence. En 1870, le train vous y emmène en moins de 11 heures. La vitesse devient une promesse, un pouvoir nouveau, celui de dompter l'espace. À la vitesse, le XXe siècle consacre un autre acteur, l'automobile. Elle devient le mode dominant, omniprésent, quasi hégémonique. Ian Walker parle de motonormativité pour désigner cette norme invisible qui fait de la voiture la référence, le point de départ de toute organisation de l'espace urbain. Les villes s'adaptent à elles, souvent au détriment des piétons, des cyclistes, des enfants ou même du silence. Ivan Illich, dans Énergie et équité, nous met en garde. L'Américain moyen passe plus de 1600 heures par an avec sa voiture pour parcourir 10 000 km, soit à peine 6 km/h. Autrement dit, si on compte non seulement le temps de conduite, mais aussi celui passé à travailler pour pouvoir s'offrir cette voiture, sa vitesse réelle n'est pas si impressionnante. D'autant que cette rapidité apparente est souvent utilisée pour aller plus lent, ce qui paradoxalement nous rend dépendants de la voiture pour combler des distances qu'elle a elle-même créées. Illich rebondissait alors, au-delà d'une vitesse critique, les véhicules motorisés engendrent des distances aliénantes que seuls peuvent surmonter. Car l'histoire des transports, c'est aussi l'histoire de nos sociétés. Chaque révolution de la mobilité a redéfini notre quotidien, notre perception du temps et des distances. Christophe Sedeny, dans l'invention de la vitesse, montre comment cette accélération de transport a transformé notre rapport à l'espace, rendant le lointain moins inquiétant, le monde plus accessible. Grâce à la vitesse, là-bas devient un ici, mais à quel prix ? En effet, nous vivons aujourd'hui dans une époque marquée par l'urgence, la rapidité, la performance. Dans le travail, dans nos échanges, dans notre manière même d'exister. Tout doit aller vite. Et en réaction, un autre mouvement émerge, celui de la slow life, du slow travel, du retour à la lenteur choisie, respectueuse du vivant et de l'humain. Ralentir, c'est aussi le choix de certaines villes face à leur étalement et leur dilution dans l'espace. Ainsi, de plus en plus de communes s'apaisent. On voit fleurir des zones 30, des trottoirs élargis, des pistes cyclables protégées, des bus en site propre. On pourrait croire qu'en allant moins vite, elles perdraient en dynamisme. Mais c'est tout l'inverse. Elles deviennent plus attractives, plus vivables, plus désirables. Et ce n'est pas qu'une affaire de confort, c'est un impératif écologique. Les transports sont l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre et si électrifier les voitures est un pas dans une bonne direction, cela ne suffit pas. Comme le rappelle l'historien Mathieu Flonneau, décarboner les véhicules ne revient pas à décarboner la mobilité. Il faut repenser nos habitudes, nos trajets, nos priorités. D'ailleurs, certaines villes en Belgique appliquent le principe STOP, qui renverse les priorités actuelles. Piétons d'abord, puis cyclistes, transport en public et, en dernier, la voiture. Une hiérarchie simple, mais qui change tout dans la manière dont on conçoit les déplacements. Alors au fond, on comprend qu'il ne s'agit pas tant de vitesse que d'allure, d'équilibre entre efficacité et qualité de vie, car le temps, lui, ne change pas. Une heure fait toujours 60 minutes, 3600 secondes. Ce qui change, c'est ce qu'on fait, ce qu'on vit en chemin, et c'est ce qui mérite d'être pensé. Baudelaire écrivait « 3600 fois par heure, la seconde chuchote, souviens-toi ». Alors souvenons-nous, la mobilité est un choix éminemment politique. Elle dit quelque chose de nos valeurs, de nos priorités, de la société que nous voulons construire. Alors à la suite de cette première chronique, je vous propose de réagir à cette émission en réfléchissant un peu à la manière dont les voitures autonomes vont pouvoir s'intégrer dans cette société qui va plus vite. Si vous avez des remarques à faire, Cyril, sur la manière dont la vitesse, le rapport à la vitesse pourrait être modifié par cette voiture autonome.
Il faut noter que les véhicules autonomes ont des temps de réaction bien réduites, même qu'on peut considérer négligeables face à celles d'un humain. De ça découlent de nouvelles perspectives, notamment dans la vitesse, qui est l'un des facteurs de la distance d'arrêt avec le temps de réaction. Si on considère que le temps de réaction est quasi nul, on peut se permettre d'aller avec un véhicule autonome à des vitesses plus élevées. D'autres avantages viennent également de la distance de sécurité. Lorsque nous suivons un camion dans une autoroute, nous avons un phénomène d'absorption causé par ce camion. Cela réduit la consommation énergétique du véhicule qui suit et donc offre des perspectives écologiques. Avec un véhicule autonome qui suivrait d'autres véhicules et donc une navigation en convoi, on appelle ça l'Adaptative Cruise Control, ACC. On est capable également d'économiser d'énergie tout en allant à des vitesses potentiellement plus rapides, mais surtout en réduisant les distances de sécurité sans compromettre la sécurité. la gestion des intersections, qui est l'un des endroits où les véhicules ralentissent le plus dans la circulation, notamment pour des raisons de sécurité. Les véhicules autonomes sont capables de coopérer entre eux, de discuter, de négocier le croisement en amont, et donc pouvoir passer sans ralentir, sans s'arrêter surtout, et en ralentissant le moins possible. Et ce qui rejoint encore une fois cette idée d'aller plus vite, mais en gardant toujours à l'esprit le côté écologique. Donc c'est l'un des rares exemples où aller plus vite permet également de polluer moins.
Si je comprends bien, la voiture autonome, elle permet donc de fluidifier le trafic par une communication entre les véhicules. Et donc, en fait, cette fluidification du trafic, est-ce qu'elle permettrait donc d'aller plus loin, de participer justement à avoir des villes qui sont plus étalées, mais où finalement cet étalement urbain n'a plus tant d'importance ?
Oui, donc c'est le cas dans des grandes villes comme San Francisco ou Waymo, donc la branche de véhicules autonomes de Google, utilise des véhicules autonomes comme c'est utilisé comme un Uber. Les personnes ont la possibilité de réserver les taxis et d'y aller. Et ça fonctionne plutôt bien. Et ça ne se réserve pas que à San Francisco. Ça s'étale un peu dans les périphéries. L'idée, c'est aussi de désenclaver les campagnes, si c'était bien ça la question.
C'est ça, donc très bien. Et je suppose que justement... donc voilà, là vous nous disiez que donc ces véhicules autonomes étaient de plus en plus intégrés dans les villes et notamment aux États-Unis. Est-ce que vous avez d'autres exemples de cette intégration dans les villes du monde ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est utilisé en Europe ?
À l'heure actuelle, en Chine, ça commence à se développer aussi. En Europe, bien que la technologie soit là, les normes ne sont pas définies. Et aux États-Unis, ils ont plutôt tendance à d'abord autoriser les véhicules et à définir la régulation ensuite. Tandis qu'en France et en Europe, plus généralement, on régule pour garantir un maximum de sécurité et après on déploie. Donc c'est possible de rouler en autonome en Europe, mais dans des conditions très spécifiques, donc en autoroute, à faible allure et en voie dégagée. Ce qui arrive assez rarement, mais théoriquement, c'est possible. Et aussi en piste privée, comme c'est le cas dans la plateforme Sevi à l'UTC ou dans la piste Tecmo de l'UTAC.
Et bien, en fait, voilà, on parlait d'intégration de la voiture autonome. C'est un mode de transport assez nouveau. Et justement, au sujet de l'intégration de nouveaux modes de transport, il y a un mode de transport qui a fait une entrée fracassante il y a quelques années, qui est aujourd'hui universel. Je nous parle donc de la trottinette électrique. D'ailleurs, on s'est plongé dans les archives et c'est Quentin qui est parti interroger les gens pour leur demander ce qu'ils pensaient, eux, de la trottinette électrique.
En effet, la trottinette, cette trottinette trottoir, peut présenter un réel danger. On écoute le témoignage d'une victime de ces engins démoniaques.
Je pense qu'en fait la majorité des gens ne se rendent pas compte d'à quel point ça peut être dramatique si on tombe mal ou quoi, parce que moi il m'a suffi d'une seule chute et j'ai perdu mon rein, donc voilà, je pense que ça ne vaut pas le coup et qu'il y a plein d'autres moyens de transport possibles pour ne pas prendre de trottinette électrique.
Certains voient ça comme un caprice. Que pensez-vous de la trottinette électrique ?
C'est un coup marketing, à mon avis ça va finir comme les vélos deco à la poubelle.
Pour d'autres, le coup marketing a très bien marché.
Quelle est votre position vis-à-vis de la trottinette électrique ?
Je suis contre. Enfin, je suis pour le principe, mais contre parce qu'elles sont toutes sur le trottoir en général. Elles ne respectent pas les feux rouges comme les vélos. Sinon, c'est très bien. Mais c'est très bien quand on respecte les règles.
Et certains ont des avis bien tranchés, bien que peu argumentés.
Quelle est votre position vis-à-vis des trottinettes électriques ?
Je suis anti-contre. Anti. Parce que c'est un moyen de déplacement pour les jeunes, d'accord ? Mais il faudrait qu'ils respectent le code de la route, qu'ils respectent les couloirs à vélo et qu'on leur a mis en service pour eux et les vélos, qu'ils soient qu'un sur une trottinette et pas deux.
Pour certains, en revanche, c'est une occasion de voyager dans le temps vers un futur efficace.
Que pensez-vous de la trottinette électrique ?
La trottinette, pour moi, c'est le futur. C'est, la trottinette électrique, c'est le futur, c'est-à-dire que... C'est écologique et c'est rapide.
Et pour d'autres, c'est un outil pratique, rapidement et parfaitement intégré dans le quotidien.
Que pensez-vous des trottinettes électriques ?
Moi, j'aime bien les trottinettes électriques dans Paris. Personnellement, je les utilise assez régulièrement quand j'ai pas trop envie de marcher ou que j'ai une petite 2 km, 3 km à faire. Ouais, je la prends, j'adore. Enfin, c'est vraiment cool, on est en plein air, c'est cool.
Et pour les vrais initiés, ça ne représente pas un tel danger. C'est simplement une question de talent.
Pensez-vous que la trottinette électrique soit dangereuse ?
Ça reste, oui, les dangereux, mais si on fait attention, franchement, moi, ça fait un moment que je l'ai et j'ai pas forcément eu. Faut faire attention, en fait.
Donc, en fait, on se rend compte que finalement, cette trottinette électrique, bah, elle n'a pas une adoption universelle, elle ne fait pas que des heureux. Et ces divergences d'opinion face à cet ovni sont plutôt symptomatiques. En effet, il fut un temps pas si lointain où le plus grand danger sur un trottoir, c'était un petit chien en laisse extensible. Aujourd'hui, c'est la trottinette électrique d'un ado pressé qui vous frôle les mollets. Cet objet hybride à mi-chemin entre jouet et ovni a envahi nos trottoirs comme les brunchs au Louis à Paris. Mais derrière cette anecdote de la vie urbaine se cache une véritable leçon de sociologie. Car chaque trottinette qui vous frôle en centre-ville incarne un changement plus profond. Elle est le symptôme, mais aussi le révélateur de notre rapport au progrès. En 1960, déjà, Yvette Rodger, un sociologue américain, s'interroge sur notre rapport à la nouveauté. Il théorise dans son ouvrage « Diffusion of Innovation » une courbe d'adoption de l'innovation, une sorte de chronologie du changement, des premiers enthousiastes aux derniers sceptiques. Mais cette courbe, ce n'est pas qu'un outil marketing de cadre en meeting avant un phone call. C'est un peu le reflet de nos peurs, de nos espoirs, de nos façons d'adhérer ou de résister à la nouveauté. Et si la trottinette n'était pas qu'une histoire de roue, si c'était en fait une radiographie sociale ? Elle cristallise les tensions entre générations, elle rejoue nos angoisses collectives, l'écologie, la vitesse, l'appropriation de l'espace public. Elle est à la fois marqueur de statut social, outil de mobilité et symbole d'une norme qui s'installe. La trottinette électrique donc. Elle débarque en ville en 2018 et là, c'est le choc. Un engin à deux roues, louable depuis son téléphone, qui permet d'éviter les bouchons, de gagner du temps et de moins polluer qu'un diesel ? Tant en non, mais surtout, elle bouscule l'ordre établi. Elle interroge nos usages. Qui a le droit de circuler ? Où ? Elle remet en cause nos normes. Est-ce un jouet ou un véhicule ? Elle floute les lignes sociales. On y croise un cadre pressé, un livreur, un ado. Tous sur le même engin, mais pas pour les mêmes raisons. En somme, la trottinette gomme ou reconfigure les frontières symboliques. Entre classes sociales, entre générations, parfois même entre genres. Alors comment la société réagit-elle ? Qui monte dessus et quand ? Et c'est là que la courbe de Roger nous offre un spectre d'analyse. D'abord, les innovateurs. Ils font sans se poser de questions. Ce sont les hackers de la mobilité. Ils auraient roulé sur une cafetière connectée si ça les avait menés au bureau. Puis les early adopters. Pour eux, la trottinette, c'est un choix de style. Elle reflète un mode de vie urbain, écolo, efficace. Ils postent des stories clean mobility en sortant de chez Starbucks. La majorité précoce, elle, attend de voir. Elle observe si l'usage devient socialement valorisé et quand tout le monde s'y met, elle suit, c'est pratique et puis maintenant tout le monde le fait, non ? La majorité tardive monte à bord par nécessité, pas par envie mais parce que le monde a changé. Le bus est lent, le vélo fatigant et les collègues rigolent. T'as jamais pris une trottinette ? La majorité tardive. Enfin, les retardataires, ils résistent. Ils râlent, ils observent, ce sont les gardiens de l'ancien monde. Et ils sont précieux parce que ce sont eux qui posent la vraie question. Est-ce que c'est une si bonne idée, au fond ? Car adopter une innovation, ce n'est jamais juste adopter un objet. C'est intégrer un nouvel imaginaire collectif. La trottinette révèle d'ailleurs notre obsession pour l'efficacité dans une société qui n'a plus le temps d'attendre, notre culpabilité écologique dans un monde au bord du basculement et notre soif de fluidité dans un quotidien de plus en plus incertain. Mais elle met aussi en lumière nos inégalités. Tout le monde n'a pas de smartphone, ni les moyens, ni une ville équipée pour ce genre de mobilité. Chaque innovation est politique. Elle soulève des questions fondamentales. À qui profite-t-elle ? Qui l'a vraiment choisie ? Et surtout, qui n'a pas eu le choix ? La courbe de Rogers, au fond, c'est bien plus qu'une courbe. C'est un théâtre, celui de notre humanité en mouvement. Elle nous rappelle que le changement n'est jamais une simple affaire de technologie. C'est toujours, profondément, une affaire d'humain. Donc maintenant que j'ai un peu clarifié ce spectre de la courbe de Rogers, pour vous, où est-ce que vous situez, Cyril, les utilisateurs de la voiture autonome en Europe, aux États-Unis, puisque ça a l'air d'être un endroit où c'est plutôt bien adopté. Où est-ce qu'on se situe autour du monde sur cette courbe de Rogers ?
Okay. Bah, vu que vous avez pris l'exemple de la trottinette électrique, je vais repartir de ça. Donc la trottinette électrique était un mode de transport qu'on n'avait pas vu arriver, qui était un peu caché sous cet effet trottinette classique qui ne posait pas vraiment de danger. Les vélos électriques ne en posaient pas non plus. Tandis que les véhicules autonomes sont directement rattachés à la notion d'intelligence artificielle, dont les dangers nous ont été un peu exagérés dans les films de science-fiction, et qui a créé une crainte collective envers ce nouveau mode de transport. D'où la raison pour laquelle, contrairement aux trottinettes électriques, les véhicules autonomes ne sont pas directement mis en circulation, et qu'elles posent pas mal de craintes d'un point de vue de la population en général.
D'accord, donc c'est quand même quelque chose qui s'adopte, qui commence à s'intégrer de plus en plus, qui n'est pas complètement intégré, mais pour vous, il va y avoir un peu cet effet boom de la trottinette électrique, où on ne l'avait pas vu arriver, et puis d'un coup, elle était là, sur les trottoirs de Paris, et on ne pouvait plus s'en détacher.
Non, au contraire, je dirais plutôt l'inverse, que les véhicules autonomes, à cause de cette notion d'intelligence artificielle et de l'image que nous a donné le cinéma l'art en général, on a une crainte envers les véhicules autonomes avant même qu'elles soient en circulation. Tandis que les trottinettes électriques, les personnes n'avaient pas vraiment de crainte jusqu'à ce qu'elles soient démocratisées. Et c'est une fois leur utilisation qu'on commence à avoir les vrais dangers que pose ce mode de transport.
D'accord, donc en fait, pour vous, aujourd'hui, les early adopteurs et la majorité précoce, ils sont sur la réserve, on ne tente pas trop. Tant que tout n'est pas bien encadré, bien sûr, et que ce n'est pas évident de pouvoir l'utiliser comme ça, on ne s'y risque pas trop.
C'est ça.
D'accord. Comment est-ce que ce serait dans un monde futur où la trottinette électrique... la voiture autonome, excusez-moi, où la voiture autonome serait universelle, les villes se seraient reconstruites autour de cette voiture autonome, son intégration serait totale. Alors pour ça, on vous propose un petit saut dans le temps, cette fois direction le futur, un futur où la voiture autonome aurait été généralisée au profit des voitures individuelles et où tous les déplacements se feraient comme ça. Chaque matin, je m'installe à l'arrière de ma voiture autonome avec mon café fumant et un podcast dans les oreilles. Plus besoin de conduire. Le véhicule m'accueille avec ma playlist préférée, ajuste la température, puis s'élance doucement dans les rues de la ville. C'est devenu un rituel presque apaisant. Depuis que ces voitures se sont généralisées, la ville a changé. Les routes sont plus fluides, les accidents presque inexistants, les anciens parkings ont été transformés en parcs, en cafés, en terrasses, en pistes cyclables. Plus besoin de posséder un véhicule, on partage, on optimise. Mon quartier, autrefois bruyant et pollué, respire enfin. Je repense parfois aux embouteillages d'avant, aux coups de klaxon impatients, aux trajets stressants. Aujourd'hui, le temps de trajet entre chez moi et mon travail est devenu du temps pour moi. Je lis, je médite, parfois je travaille, la voiture me dépose là où je veux, sans amo, avec une précision d'horloger. Ce matin, en passant devant un jardin partagé à la place d'un ancien parking, je me suis dit que la technologie, quand elle est bien pensée, peut vraiment rendre la ville plus humaine. Et ça, c'est peut-être le plus grand paradoxe de cette révolution silencieuse. Donc Cyril, je vais vous laisser réagir sur cette micro-fiction qui dépeint à la première personne le trajet d'une personne dans cette ville du futur, dans cette ville où la voiture autonome a remplacé la voiture individuelle, où apparemment le doux glissement de ces véhicules silencieux ont remplacé les klaxons des embouteillages parisiens. Est-ce que pour vous, cette fiction, elle est probable, imaginable, ou ça reste assez utopique et on n'atteindra jamais une... Enfin voilà, j'aimerais bien entendre votre avis à ce sujet-là.
Donc c'est intéressant votre question parce que ce n'est pas juste de l'utopie ni de la fiction pure parce que c'est un sujet qu'on aborde chez Utonum à travers le projet SecUtod, Smart and Efficient City Using Utonum on Demand depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Donc l'idée ça serait donc d'avoir un service de transport partagé, autonome et donc dans un monde encore plus utopique qui pratique le covoiturage. Les véhicules personnels disparaissent parce qu'ils coûtent cher en assurance, en carburant, en électricité et pas mal de problèmes de flexibilité aussi. Il va falloir les garer, la conduire, etc. Avec des véhicules autonomes partagés, les utilisateurs vont pouvoir réserver le véhicule à travers une application, comme on le ferait avec un Uber ou un taxi classique. C'est déjà le cas avec les Waymo, mais avec notre vision chez Utonome et plus globalement à l'UTC, on intègre derrière un algorithme qui fait le covoiturage. Donc le monde utopique va encore plus loin. Donc la vision que vous m'avez présentée n'est pas si improbable que ça. Et donc pour montrer la réalisabilité de cette vision utopique, comme vous le dites, on a mené pas mal de projets. Et donc c'est pour ça que lors du challenge du TAC, on a montré la robustesse de notre algorithme de contrôle et de perception sur un véhicule réel. Tandis que le reste du monde utopique, même si on a aussi pris en compte le monde un peu entre les deux, dans lequel il reste encore quelques véhicules qui ne sont pas autonomes, ou du moins connectés, et le véhicule autonome arrive à naviguer dedans avec toute la visibilité que vous avez dit. Enfin, Google, ça peut être assez surprenant qu'ils ont investi sur le véhicule autonome, et en creusant un peu plus loin, on se rend compte que pas vraiment. Google, quand ils ont commencé à investir sur le véhicule autonome, c'est parce qu'ils sont partis d'un fait. À part lorsqu'on dort, le seul moment où on ne consomme pas les services Google, c'est lorsque l'on navigue. On utilise bien sûr Google Maps, mais leurs sources de revenus principaux viennent de YouTube avec les pubs ou les abonnements, mais également de Google quand on fait nos recherches. On a quelques premiers résultats qui apparaissent avec le mode annonce. Donc l'idée, c'est de remplir cette expérience à bord avec de l'infotainment, donc pousser les gens à faire des recherches sur Google ou à regarder des vidéos sur YouTube, mais donc profiter des services Google. Donc le monde où on se met à l'arrière de la voiture et qu'on profite des services ou qu'on dort n'est pas très loin.
D'accord. Donc si je comprends bien, la voiture autonome, elle permet la fin des matinées, des matins interminables dans le métro pour aller au travail, puisqu'en fait, on serait capable de monter dans une voiture autonome pour se rendre à son lieu de travail sans devoir emprunter les transports en commun.
En effet.
D'accord. Et donc, tout ça pose un peu des questions aussi d'éthique. Je pense que c'est quelque chose que vous abordez peut-être à Utonome. Quand on pense à éthique, on pense souvent au paradigme du trolley. Vous savez, c'est cette histoire où, vous devez choisir entre écraser quelqu'un écraser quelqu'un pour sauver cinq personnes ou... ne rien faire et tuer cinq personnes. Je crois que c'est quelque chose qui revient un peu dans le débat quand on parle de voiture autonome. C'est dans le cas d'un piéton qui passe devant la voiture et où la seule possibilité, ce serait de jeter la voiture dans le fossé. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on choisit de mettre en danger le passager de la voiture ou est-ce qu'on choisit d'écraser le passant qui est passé sans faire attention ?
Donc c'est une question qu'on ne s'est pas trop posée chez Utonome, mais dont la presse et notamment les grandes entreprises se sont posées. Donc il est vrai qu'on se pose la question éthique d'une machine qui va prendre la décision à la place de l'humain, mais un humain aurait fait une décision personnelle pour se protéger soi-même, ou à l'opposé, une décision qui va protéger autrui et sacrifier sa vie, mais ce n'est pas la victime... pas forcément la victime qui prend la décision. L'IA, donc les véhicules autonomes, vont prendre une décision pragmatique, comme le font un peu les médecins quand il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de sang ou assez d'organes, qu'il va falloir donner à la personne qui a le plus de chances de survie. L'IA, le véhicule autonome, va pouvoir prendre la décision la plus pragmatique et qui va sauver un maximum de monde. Il y a une vidéo qui est tournée dans les réseaux sociaux assez récemment, où il y a un piéton est tombé du trottoir sur la route et une Tesla conduite en mode autonome a pris la décision volontaire de se crasher contre un véhicule en face car là, si jamais il aurait continué tout droit ou il aurait essayé de freiner, il n'aurait pas pu freiner à temps et le piéton serait décédé sur place. Tandis qu'en prenant le choix éclairé de foncer sur le véhicule en face, certes, il y a eu des dégâts matériels, mais il n'y a pas eu de vie perdue.
D'accord. Et donc, en fait, dans le cas d'un accident mortel, si c'est l'intelligence artificielle qui prend la décision, qui porterait la responsabilité? Est-ce que c'est une question que vous avez creusée un petit peu? De qui aurait la responsabilité de la mort soit du passager ou de la mort du piéton qui a été écrasé?
À l'heure actuelle, on n'est pas capable... On n'a pas encore creusé du côté association ou à l'UTC, de ce que je sais. Mais c'est plutôt une question qui est posée plutôt à l'échelle nationale, voire européenne, de qui porte la responsabilité. À l'heure actuelle, on a des safety drivers quand on fait nos essais. Donc si jamais il y a un accident, c'est le safety driver qui est responsable parce qu'il est en charge de reprendre la main du volant quand il y a un problème.
D'accord.
Et pareil, dans la plupart des pays, surtout en Europe, on autorise uniquement les conduites de niveau 3 maximum, parce que c'est les conduites où il y a tout le temps quelqu'un pour reprendre la main quand besoin. Aux États-Unis, il n'y a pas ça. Les Waymo naviguent seuls, sans chauffeur à l'intérieur. Mais par contre, ils sont capables de prendre la responsabilité parce que le modèle des véhicules autonomes n'est pas sur le modèle de personnes qui achètent des voitures, mais plutôt le fabricant lui-même qui l'offre en termes de service.
D'accord, donc dans ce cas-là, c'est le fabricant ou la société qui exploite ces véhicules qui est responsable dans le cas d'un accident.
C'est l'hypothèse qui est privilégiée à l'heure actuelle. Et donc, pour éviter poser la question d'entre la personne qui l'exploite et le fabricant, souvent en ce moment, c'est plutôt les deux ensemble, que ce soit D'accord. chez Tesla ou chez Waymo.
D'accord. Il me semble que Quentin avait quelques questions.
Est-ce que la voiture autonome sera accessible à tous? Enfin, quels enjeux sociétaux cela pose?
Donc, accessible à tous en termes d'on achète des voitures autonomes ou on monte dans les voitures autonomes?
Un peu des deux.
Donc l'achat des voitures autonomes, comme je viens de le dire, n'est pas une solution privilégiée parce qu'elle va un peu à l'encontre de l'idée principale du véhicule autonome qui est moins de voitures, mais on partage ces voitures. Deuxièmement, il y a la question de la responsabilité. Lorsqu'une personne achète une voiture autonome, elle devrait théoriquement prendre les responsabilités qui vont ensemble. Mais lorsqu'elle n'a pas le contrôle dessus, cela va souvent porter confusion sur qui va porter la responsabilité. Et c'est aussi un manque à gagner pour les entreprises. Donc, que ça soit Waymo qui opère directement ses véhicules lui-même, ou Tesla qui s'oriente, qui était à l'heure actuelle des véhicules autonomes de niveau 3, donc c'est-à-dire le chauffeur qui reprend la main en cas de besoin, est responsable, même en mode autopilote où le véhicule se conduit tout seul. Mais par contre, sur leur cybercab, qu'ils ont présenté même à Vivatech là, cette semaine, il n'y a plus de volant. Et donc, Tesla ne les vend pas, mais va les proposer en service comme un taxi ou un Uber.
Et du coup, dans les campagnes, comment ça va se passer?
Donc, il y a plusieurs solutions qui sont étudiées. Dans le projet SecuTod, on prévoit notamment un équilibre entre désenclavement et écologie. Parce que quand un véhicule va s'éloigner des centres-villes, donc là où il y a le plus de demandes, vers une périphérie pour une personne, le coût environnemental du déplacement d'une personne va être assez élevé. Néanmoins, on ne peut pas laisser une personne en situation d'enclavement où ça le pousserait à investir sur un véhicule personnel. Donc, pour être désenclavé, partir à un endroit où le véhicule autonome pourrait le reprendre en charge. Donc l'idée, ça serait de quand même garantir la couverture des zones enclavées, mais néanmoins de se repositionner sur des zones à forte affluence pour que le véhicule autonome puisse reprendre du service dès que possible.
Et dans quelle mesure ça va changer le rapport au temps et à l'espace?
Donc, le temps, c'est l'utilisation du temps, parce que souvent, le temps qu'on passe dans les transports, que ce soit même dans les bus et les métros, même si on ne conduit pas, le fait qu'on doit changer de rame ou de les correspondances dans les bus nous pousse à être concentrés sur le trajet. On peut lire, on peut regarder une série, mais on ne peut pas être à 100% dedans. Lorsqu'on a un véhicule qui vient nous chercher au point de départ et qui nous donne la certitude qu'il va nous déposer au point d'arrivée, on peut lâcher prise et donc profiter de ces instants pleinement. Donc on peut dormir sans avoir la crainte de rater son arrêt. Le véhicule autonome trouvera une solution pour nous réveiller parce qu'il sait que si une personne reste dans le véhicule ou non. Pareil pour les autres infotainment, on peut pas être plongé dans la série et oublier son arrêt, etc. En termes d'espace, en partant de l'hypothèse que les véhicules autonomes sont des services partagés et pas individuels, les véhicules autonomes seront presque tout le temps en déplacement. L'idée, c'est qu'ils soient le moins à l'arrêt possible, donc qu'on fabrique le nombre de véhicules autonomes par rapport à la demande, qu'on n'ait pas trop de véhicules autonomes par rapport à la demande du service et que du coup la majorité des véhicules soient à l'arrêt. Donc vu que les véhicules autonomes ne seront presque jamais à l'arrêt, on peut réduire considérablement le nombre de places de stationnement. Et chez Autonome, on a aussi travaillé sur un système de fleet rebalancing qui font qu'en gros, quand un véhicule autonome est vide et qui du coup irait dans une situation d'un peu de stationnement, il va trouver la position des autres véhicules du service, et notamment les véhicules vides, et va essayer d'un peu se répartir sur l'ensemble de la ville pour trouver un bon équilibre entre je couvre un maximum l'espace, mais en prenant en compte l'attractivité des positions. Une gare, c'est normal qu'on puisse avoir trois véhicules autonomes d'un service à proximité, et qu'on en ait un seul dans une ville de campagne, dans la banlieue de la grande ville.
Et donc, on imagine quand même qu'on fait voyager moins de monde avec une flotte de voitures autonomes qu'avec une rame de métro. Dans ce cas-là, est-ce que ce serait... parce que j'imagine que l'usage, même s'il se démocratise, de voitures autonomes aura un coût. Est-ce qu'on imagine... l'évolution donc il n'y a plus de voitures individuelles et il n'y a que des voitures autonomes, mais on conserve quand même les flottes de bus, de métro, de tram, etc. Et est-ce qu'on peut envisager que les bus soient conduits de manière autonome eux aussi? Parce que j'imagine mal une ville comme Paris, par exemple, se passer du métro ou du tram au profit uniquement d'une flotte de voitures autonomes. Et dans ce cas-là, quel est le public qui aura accès, qui aura les moyens d'avoir accès aux véhicules autonomes?
Donc la consommation énergétique des moyens de transport est proportionnelle à sa taille, plus ou moins proportionnelle. Donc un véhicule de 5 passagers va consommer beaucoup moins qu'une ligne de métro entière. Néanmoins, c'est vrai qu'une ligne de métro peut accueillir beaucoup plus de passagers qu'un véhicule autonome. Et donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Il y aura des études statistiques qui seront faites par rapport à l'usage de ces deux modes de transport. On peut avoir une combinaison, mais par contre, on perd également dans l'expérience utilisateur. Par exemple, si jamais on doit faire, bien qu'on ait des véhicules autonomes, on doit changer du métro vers ce véhicule, ça nous crée, encore une fois, une barrière. Après, on peut tout de même trouver d'autres compromis dans le véhicule autonome. Ça serait, par exemple, d'avoir des bus autonomes qui vont faire des trajets prédéfinis ou plus ou moins prédéfinis. Parce que l'algorithme qu'on utilise, qui est un algorithme également cité pas mal par la littérature, c'est un algorithme qui a une très grosse complexité informatique. C'est-à-dire qu'il a besoin de beaucoup de temps pour calculer la solution optimale. Et nous, on essaye de faire les compromis pour avoir des résultats en temps réel. Mais par contre, ça, on peut le faire qu'à l'échelle d'un véhicule classique, donc 5 passagers, 7 à la limite. Mais lorsqu'on arrive sur des bus, ça va être impossible de définir des trajets de bus qui vont pouvoir passer par tous les points de départ et d'arrivée avec toutes les contraintes associées des passagers qui sont dans le bus. Donc, par contre, on peut faire ce type de calcul, mais en prenant plusieurs jours, voire des mois d'optimisation. D'accord. Qui est possible, par exemple, pour des trajets de type domicile-travail.
D'accord.
Et au niveau des impacts environnementaux, est-ce que ce n'est pas plus consommateur d'énergie, de métaux, de terres rares et tout comme ça?
Donc, c'est un peu comme le véhicule électrique aussi. À noter qu'en gros, les voitures autonomes sont pour la plupart électriques parce qu'il va falloir brancher les capteurs, les ordinateurs et les actionneurs. Donc, ça a été fait même à l'UTC avec des véhicules thermiques à l'époque. Mais ça pose les contraintes avec qu'il va falloir embarquer une batterie rien que pour alimenter toutes ces instrumentations. Les ordinateurs, les capteurs, les actionneurs ont un coût énergétique, c'est vrai. Mais ils sont également compensés par les autres actions énergétiques qui sont mises et qui sont disponibles uniquement dans les véhicules autonomes. Notamment l'optimisation énergétique à l'approche d'une intersection, la négociation avec d'autres véhicules autonomes. Mais même lorsqu'ils arrivent à une intersection avec des véhicules manuellement conduits, des véhicules autonomes vont être capables de mieux anticiper l'intersection et de ralentir adéquatement de façon à optimiser la consommation énergétique. Dans le cas du taxi, on va optimiser les déplacements des véhicules autonomes avec du covoiturage. Et ce type de covoiturage pourrait théoriquement être possible avec des humains, mais par contre, on n'aurait pas la même efficacité que ce qu'on a dans nos démonstrations. Et enfin, avec des véhicules autonomes, on a de l'autopartage. Et donc, certes, un véhicule sera plus polluant. Néanmoins, on va avoir un véhicule partagé pour plusieurs dizaines de personnes. Et donc ça, le bilan énergétique est largement compensé. Et enfin, on a toutes les adaptations du territoire, donc plus de parcs, plus de cafés, etc. Ce qui sont aussi des facteurs environnementaux.
Mais les voitures électriques posent aussi, enfin les voitures autonomes posent aussi des préoccupations éthiques du style sur la vie privée, sur l'impact sur l'emploi.
C'est vrai que les chauffeurs Uber ou les chauffeurs de taxi représentent des emplois essentiels au fonctionnement de notre société. Mais néanmoins, l'arrivée des voitures autonomes pose la même problématique qu'il y avait à l'époque où les chauffeurs Uber sont arrivés par rapport aux taxis traditionnels. Ils offrent des tarifs plus avantageux. Ils vont causer la perte d'emplois, c'est vrai. Mais ils vont créer des nouveaux. Par exemple, plus d'ingénieurs, donc plus d'emplois qualifiés. Plus de safety driver, donc par exemple chez Waymo, il y a une centrale dans laquelle des chauffeurs entraînés sont bien meilleurs que les chauffeurs de VTC ou de taxi classique, qui vont être capables de gérer des situations plus complexes, vont travailler depuis un siège distant, où ils vont reprendre le contrôle du véhicule autonome en cas de besoin. C'est ce qui permet actuellement aux véhicules Waymo de circuler à San Francisco et donc de s'adapter à des comportements imprévus, notamment à cause des personnes qui réagissent mal par rapport aux véhicules autonomes.
Je vous propose peut-être de conclure, si vous avez un dernier mot à rajouter au sujet des véhicules, et puis sinon je vous propose de conclure cette émission.
Merci beaucoup et merci encore pour votre invitation.
Merci beaucoup pour votre participation et puis pour votre enthousiasme au sujet de ces voitures autonomes. C'est un enthousiasme qui est largement transmis, j'espère, à travers l'antenne et nos auditeurs qui nous écoutent toujours sur la radio 94.9 FM. La technologie de la voiture autonome, elle promet donc confort, sécurité, fluidité. Elle promet un nouveau modèle de société qui tendrait vers une motonormativité qui serait plus individualiste comme elle peut l'être actuellement, mais davantage collective. Elle soulève encore certains enjeux au niveau de l'éthique et potentiellement de l'inégalité d'accès. mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui réfléchit un peu dans sa globalité et qui propose des solutions assez intéressantes. Je pense que malgré tout, il s'agit un peu aussi de s'interroger, non pas uniquement sur le moyen de transport, mais aussi sur le besoin de se déplacer toujours plus vite, toujours plus efficacement et aussi toujours plus loin. Et je me demandais en fait si l'avenir ne résidait pas aussi, si l'avenir résidait seulement dans une optimisation technologique et pas et si c'était pas possible d'envisager un peu un changement de paradigme aussi par rapport à ces besoins de déplacement. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un futur où les services et les pôles d'activité seraient reterritorialisés, où la convivialité primerait sur la productivité et donc l'efficacité des transports? Et si ces nuances et ces compromis, qu'il nous appartient évidemment d'explorer ensemble, que ce soit pour un futur de voitures électriques, de voitures autonomes, de trottinettes électriques ou de vélos. Quelle frugalité aussi on est prêt à accepter et au prix de quel confort est-ce qu'on serait prêt à accepter d'être dérangé dans son voyage vers notre lieu de travail et d'interrompre notre série. Quel compromis on est prêt à accepter pour construire un futur qui serait véritablement soutenable et souhaitable. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour cette émission, pour ces interventions qui ont été très pertinentes. J'espère que nos auditeurs auront appris beaucoup de choses, auront imaginé des futurs possibles et pu jeter un œil sur le passé. Et je conclus cette émission. Merci beaucoup pour votre écoute.